109. Les hommes célèbres de la Champagne. Colbert et la France Louis XIV. Nips et la photographie. Philippe le Bon et le gaz d'éclairage. Le fabuliste La Fontaine. Nous jouissons tous les jours, et souvent sans le savoir, de l'œuvre des grands hommes. C'est un bienfait perpétuel qu'ils laissent après eux. 1. Le plus grand ministre de Louis XIV et l'un des plus grands hommes qui ait gouverné la France, ce fut Colbert. Le fils d'un simple marchand de laine de Reims, qui avait pour enseigne un homme vêtu d'un long vêtement de drap avec ces mots « au long vêtu ». Colbert avait pris dans le commerce des habitudes d'ordre et d'intègre probité qu'il apporta plus tard dans les affaires publiques. Le cardinal Mazarin, à son lit de mort, dit à Louis XIV « Sire, je vous dois beaucoup, mais je crois m'acquitter en quelque sorte avec votre majesté en vous donnant Colbert. » Les prévisions de Mazarin ne furent pas trompées. Et c'est à Colbert qu'est due pour la plus grande partie la gloire du siècle de Louis XIV. À cette époque, une foule de gens prenaient dans le trésor public et gaspillaient l'argent de la France. Colbert, par sa fermeté et sa sévérité, réprima tous ces abus. On l'appelait l'homme de marbre, parce qu'il n'accordait à chacun que ce qui lui était dû, sans se laisser fléchir par les menaces ou par les promesses. « Sire, écrivait-il au roi, un repas inutile de 1000 écus m'offrit une peine incroyable. » Et lorsque, au contraire, il est question de millions d'or pour la Pologne, je vendrai tout mon bien et j'irai à pied pour y fournir si cela était nécessaire. Car c'était alors l'époque où les nations qui l'entouraient la Pologne commençaient à s'en disputer les provinces. Colbert fit plus que de donner tout son bien pour la France. Il lui donna tout son temps, toutes ses forces, toute sa vie. Il travaillait 16 heures par jour, soutenu par l'idée qu'il travaillait au bonheur du peuple et à la gloire de la France. Malheureusement, ce labeur perpétuel ruinait sa santé. En outre, les courtisans le haïssaient car il n'aimait point à leur accorder des faveurs injustes. Le roi Louis XIV finit par méconnaître ses services et par le disgracier au moment où il allait mourir épuisé par ses travaux. Mais Colbert laissait en mourant de grandes œuvres et le bien qu'il avait fait à la France ne fut point perdu. Maintenant encore, dans l'état florissant où nous sommes, on pourrait retrouver la trace des efforts de Colbert. On comprend à peine comment ce grand ministre put suffire à accomplir à la fois tant de travaux et de réformes diverses. « Mon Dieu, dit Julien en lui-même, voilà un homme qui a été bien utile à la France. Pourtant, c'était le fils d'un simple marchand de drap, ce Colbert. Mais ce n'était pas un paresseux. 16 heures de travail par jour, comme il prenait de la peine. Allons, je vois que pour arriver à faire bien des choses et à les bien faire, il faut travailler sans cesse. » 2. À Chalon-sur-Marne, ville connue pour son commerce de vin et pour son école d'art et métier, naquit en 1765 Joseph Nips. Il fit d'abord comme lieutenant une partie de la campagne d'Italie. Plus tard, retiré dans sa ville natale, il s'occupa de sciences d'art et d'industrie. Il y avait un problème qui le tourmentait et dont il cherchait sans cesse la solution. En étudiant la physique, il avait appris que si, dans une boîte obscure fermée de toutes parts, on pratique un petit trou par lequel passe un rayon de soleil, on voit se peindre renversés sur le fond de la boîte les objets qui sont en face. C'est ce qu'on appelle la chambre obscure. Si je pouvais, disait Nips, fixer sur du métal ou du papier cette image qui vient se peindre dans le fond de la boîte, j'aurais un dessin fait par le soleil et d'une merveilleuse fidélité. Mais comment faire? Il faudrait pour cela frotter le métal ou le papier avec une chose qui aurait la propriété de noircir sous les rayons du soleil. Alors, quand les rayons entreraient dans la boîte, ils noirciraient le métal ou le papier et reproduiraient les objets, les personnes, les paysages. Mais Nips cherchait sans pouvoir trouver rien qui le satisfait entièrement. Or, il y avait à pareille époque un autre homme, Daguerre, qui cherchait le même problème. C'était un peintre fort habile qui se disait lui aussi « Le soleil pourrait dessiner les objets en un clin d'œil si on réussissait à fixer l'image de la chambre obscure. » Il apprit qu'un inventeur habile à Chalon avait déjà trouvé quelque chose de ce genre. Il vint à Chalon le voir et lui dit « Voulez-vous que nous partagions nos idées et que nous nous mettions à travailler tous les deux ?» Nips accepta. 10 ans après, en 1830, on annonçait à l'Académie des sciences une découverte qui devait faire honneur à la France et se répandre dans le monde entier. Les principes de la photographie étaient inventés par Nips et Daguerre. Ainsi, ce qu'un seul de ces deux hommes n'aurait sans doute pu découvrir, tous deux l'avaient trouvé en s'associant. C'est un exemple nouveau des bienfaits de l'association. Pour l'intelligence comme pour tout le reste, l'union fait la force. Nips était mort en 1833. La Chambre des députés accorda une pension de 6000 francs comme récompense nationale à Daguerre et au fils de Nips. 3. Philippe le Bon naquit dans un village de la Haute-Marne. Devenu ingénieur des ponts et chaussées, il était à la campagne, chez son père, lorsqu'il fit une des plus importantes découvertes de notre siècle. Il était occupé à des expériences de physique et de chimie et chauffait sur le feu une fiole remplie de sciure de bois. Le feu s'étant communiqué à la fumée et au gaz qui s'échappait de la fiole, ce gaz se mit à brûler d'un vif éclat. Aussitôt, Philippe le Bon conçut la pensée d'éclairer les maisons et les villes au moyen du gaz qui sort du bois ou du charbon de terre, quand on les chauffe fortement. Il était tellement enthousiasmé de sa découverte qu'il disait aux habitants de son village « Je retourne à Paris et de là je puis, si vous voulez, vous chauffer et vous éclairer avec du gaz que je vous enverrai par les tuyaux. » On le traita de fou, mais son invention, loin d'être une folie, est une des plus utiles applications de la science. Philippe le Bon eut bien de la peine pour faire accepter en France son idée et même il n'y put réussir. C'est en Angleterre qu'on adopta d'abord sa découverte. Au milieu de ses efforts et de ce courageux essai, Philippe le Bon rencontra une mort tragique. Il fut assassiné en 1804 à Paris dans les Champs-Élysées, sans qu'on ait jamais pu découvrir ni son meurtrier, ni le motif de cet assassinat. Une pension fut accordée par l'État à la veuve de Philippe le Bon. 4. Outre ses inventeurs célèbres, la Champagne a produit un de nos plus grands poètes. À Château-Thierry, dans l'Aisne, vivait, au XVIIIe siècle, un excellent homme de mœurs fort simple, qui était chargé d'inspecter les eaux et forêts. Il passait en effet une bonne partie de son temps dans les bois. Il restait tout songeur sous un arbre pendant des heures entières, oubliant souvent le moment du dîner, ne s'apercevant pas parfois de la pluie qui tombait. Il jouissait du plaisir d'être dans la campagne. Il regardait et observait tous les animaux. Il s'intéressait aux allées et venues de toutes les bêtes des champs, grandes ou petites. Et les animaux lui faisaient penser aux hommes. Il retrouvait dans le renard la ruse, dans le loup la férocité, dans le chien la fidélité, dans le pigeon la tendresse. Il composait alors dans sa tête de petits récits dont les personnages étaient des animaux, des fables où parlaient le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi. Vous avez reconnu enfant ce grand poète dont vous apprenez les fables par cœur, La Fontaine. C'est un des écrivains qui ont immortalisé notre langue. Ces fables ont fait le tour du monde, on les lit partout, on les traduit partout, on les apprend partout. Elles sont pleines d'esprit, de grâce, de naturel, et en même temps, elles montrent aux hommes les défauts dont ils devraient se corriger.